Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
D'abord, je vais vous donner une référence d'un livre que j'aimerais que vous puissiez, si c'est possible, acheter. C'est un livre qui s'appelle Les yeux ouverts. C'est pas un livre qui est un livre, c'est pas un best-seller, mais c'est une merveille de livre. Les yeux ouverts de Émile Kremer. Si vous pouvez, vous allez à la CLC, vous l'achetez s'ils l'ont réédité. S'ils l'ont pas, vous le faites venir. Et vous allez être hautement inspiré de le lire. Les yeux ouverts d'Émile Kremer. J'ai connu ce frère il y a peut-être 25, 30 ans en arrière. J'avais sa première édition. Il a refait une autre édition, mais c'est une merveille. Lisez-le de la première ligne jusqu'à la dernière. Ne sautez aucune page surtout. Il est bourré de références bibliques. Et c'est un livre équilibré. C'est pas souvent le cas. Donc nous allons continuer notre périple concernant les expériences de la délivrance. Nous avions vu l'enfant épileptique. J'aimerais vous dire une chose, c'est que dans mon cœur, il va falloir que je revienne sur certaines choses de la délivrance. Et on continuera aussi loin que le Seigneur nous amènera. Je ne peux pas continuer à parler de cela s'il n'y a pas une base solide concernant pourquoi la délivrance est-elle nécessaire et pourquoi quelles sont ces causes qui amènent Dieu à nous libérer. La cause, c'est le péché et ce que nous avons pratiqué dans le péché. Et nous devrons voir en détail dans l'Écriture ce que dit l'Écriture par rapport à certaines pratiques que nous avons faites avant de connaître le Seigneur et qui a eu des implications dans nos vies. Donc je reviendrai largement sur ce sujet qu'on n'a pas encore abordé. Parce que la clé principale d'une véritable liberté dans le Seigneur, il est dit que si le Christ vous sera franchi, vous serez réellement libre. Mais libre à l'égard de quoi? À l'égard du péché. Donc il faut savoir l'implication du péché dans la vie des personnes. Et c'est pour ça que nous reviendrons sur ce que l'Éternel dénonce, lui, comme étant des péchés d'abomination, des péchés d'extrême horreur, des malédictions. Toutes ces choses, il faut que nous les voyons détaillées. L'Esprit de Dieu m'a montré ces choses. Il faut que nous y revenions pour que nous comprenions réellement que l'Église du Seigneur, si elle est aveugle, c'est comme disait le prophète Osée, « Mon peuple meurt ». Faute de connaissance. Donc ce matin, nous allons voir deux autres cas. Deux cas qui sont dans l'Écriture. C'est le cas de la femme courbée. Donc vous trouverez cela dans Luc 13. S'il vous plaît, prenez vos Bibles si vous les avez. Luc 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Un texte éminemment clair. Un texte dans l'Écriture qui devrait faire sursauter les enfants de Dieu. Nous allons lire ce passage. Luc 13, versets 10 à 17. Or, il enseignait. Qui enseignait? Jésus, bien sûr. Or, Jésus enseignait dans l'une des synagogues un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, et à l'instant, elle fut redressée et glorifiée Dieu. Et le chef de la synagogue, indigné, ce chef de la synagogue était indigné, parce que Jésus avait guéri une personne. De ce que Jésus avait guéri un jour de sabbat. Oh là là. Un jour de sabbat. Oh là là. Répondant, dit à la foule, il y a 6 jours où il faut travailler. C'est ce que dit le chef de la synagogue. Travaillez pendant 6 jours, vous pouvez travailler 6 jours, mais alors, n'est-ce pas? Venez dans ces jours-là, c'est-à-dire venez dans ces 6 jours-là, et soyez guéris. Et non le jour du sabbat. Oh là là. Jésus leur a dit, malheur à vous, pharisiens, hypocrites et menteurs. Malheur à vous, Vous avez les clés de la connaissance, n'est-ce pas? Et même en ayant ces clés, vous ne pouvez pas transmettre cette connaissance parce que vous êtes aveuglé vous-même. Le Seigneur donc lui répondit, dit « Hypocrite !» Ah, hypocrites en grec, comédien. Le chef de la synagogue jouait la comédie. Il jouait une comédie religieuse. S'il vous plaît, 6 jours, vous pouvez vous faire guérir, mais le 7e, ne venez pas vous faire guérir, c'est pas le moment. Comme si Dieu, n'est-ce pas, il avait des moments pour guérir. Nous verrons dans d'autres textes. Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Et comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui, c'est-à-dire par Jésus. Amen. Notre Dieu est bon. Comme s'il y avait, viens me consulter, je consulte entre 9h et midi, entre 14h et 16h, simplement tu peux venir là et tu seras peut-être guéri. Le Seigneur, lui, n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans les jours. Quand il décide d'agir, il agit. Amen. Que ça soit le jour du sabbat, le lundi ou le mardi ou le dimanche, peu importe, Dieu agit. Reprenons le texte. Il enseignait dans l'une des synagogues un jour de sabbat. Ah voilà, Jésus enseignait. Si vous regardez les évangiles, si vous regardez les 4 évangiles, et vous voyez la majorité du temps, Jésus en train d'enseigner. Enseigner. Quand Jésus est remonté auprès du Père, il a laissé une consigne aux disciples. Il a dit ceci, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus a passé la majorité de son temps à enseigner, pas seulement dans les synagogues, pas seulement dans le temple, pas seulement devant les foules, pas seulement devant les gens religieux, mais il enseignait aussi en particulier, comme il l'a fait avec Nicodème et bien d'autres, n'est-ce pas? Jésus passait son temps à enseigner. Mais il enseignait quoi? Il enseignait le royaume de Dieu. Il enseignait le royaume de Dieu. Il jetait la perspective de la vision du royaume de Dieu. Et toi, Église, as-tu cette perspective du royaume de Dieu? Il enseignait dans le temple, il enseignait dans les synagogues, devant la foule, en particulier, il ne cessait d'enseigner le royaume. Vous savez combien de fois on trouve le mot enseigner dans les 4 évangiles? Je ne parle pas du tout du Nouveau Testament, je parle de 4 évangiles. Jésus a enseigné plus de 55 fois, le mot est marqué dans les 4 évangiles. Ça veut dire que Jésus avait et passé une grande partie de son temps à enseigner le royaume de Dieu. Et vous dites amen, parce que ça c'est une vérité qui est scripturaire. Alors chaque fois que Jésus enseignait, il annonçait la parole de son Père. Or, Jésus, lui, est la parole du Père. Il est la parole incarnée. Il est le Christ incarné. Il est le Logos. Il est le Verbe. Il est lui-même parole. Il est la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand on enseigne la parole de Dieu avec la puissance de Dieu, donc avec la puissance du Saint-Esprit, alors attendez-vous à ce que les démons soient manifestés. Et regardez dans l'Écriture, chaque fois que Jésus enseignait dans les synagogues, qu'est-ce qui se passait? La puissance de la parole venait révéler les ténèbres qui étaient au milieu des assemblées que Jésus enseignait. La plupart du temps, c'était dans les synagogues. Or, frères et sœurs, que je sache, dans les synagogues, n'est-ce pas, qui sont les équivalents de nos églises aujourd'hui, dans les synagogues, il y avait bien des gens et qui étaient là écoutant la parole parce qu'ils avaient la foi, n'est-ce pas? Oui ou non? On dirait aujourd'hui, il y a une assemblée avec des chrétiens qui entendent l'enseignement et tout d'un coup dans cette assemblée, quand Jésus enseignait, tout d'un coup les démons étaient manifestés. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ils n'ont pas réglé leur vie. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, ont pratiqué l'occultisme, le spiritisme, et j'en passe, on verra ces choses en détail, et ils sont assis là sur une chaise, et quand la parole de Dieu vient avec puissance, quand l'adoration tombe avec puissance, les démons sont manifestés. Vous savez que Satan, il a un grand, grand projet depuis le départ, c'est de détruire l'église du Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai l'église, et Satan, lui, il a dit, je détruirai son église, n'est-ce pas? Et pour ça, il s'est pas privé d'envoyer des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Il a envoyé une pléthore de faux ministères, n'est-ce pas, dans l'église du Seigneur, pour essayer de détruire l'église du Seigneur. Et s'il détruit l'église du Seigneur, c'est-à-dire, il détruit ma vie, il détruit ta vie. C'est pour ça que l'église doit être une, unie, ensemble. La foi, c'est pas l'accumulation d'une connaissance. La foi, c'est la foi dans le Christ mort et ressuscité d'entre les morts. C'est ça notre foi. Notre foi, elle est basée sur la rédemption dans le sang de Jésus. Ça nous est, la justice de Christ nous a été imputée par son sang. Et là, il y avait là une femme possédée. Et le texte nous dit-il pas qu'elle était de la race d'Abraham? Qui est Abraham pour nous? Notre père dans? Dites-le fort. N'ayez pas honte de dire qu'Abraham était notre père dans la foi. Cette femme, elle était de la race d'Abraham. Elle était dans la foi, n'est-ce pas? Elle était possédée. Hein, ça pose des questions. Possédée par quoi? Mais il y a des gens qui sont, sans s'en rendre compte, ils sont dans des liens dans leur vie. Ils sont obsédés par la sexualité. Ils sont obsédés par le sexe. Ils sont obsédés par l'argent. Ils sont obsédés par plein de choses. Il devrait se poser les vraies questions. Pourquoi moi, en tant que chrétien, je pose mes regards sur des sites pornographiques? Pourquoi moi, en tant que chrétien, l'argent m'intéresse beaucoup? Pourquoi moi, en tant que chrétien, et si, aimé? On devrait se poser les bonnes questions au bon moment. Le ministère de Jésus n'est pas un ministère qui est venu pour dire « Oh, mes petits-enfants, comme je vous aime », etc. Oui, Jésus nous a dit ces choses, mais quand le Saint-Esprit est tombé sur le Seigneur et qu'il était dans la synagogue et qu'il a déroulé le rouleau, il a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint des pieds à la tête, c'était une véritable onction ambulante, le Seigneur. Il m'a oint pour, mais pourquoi faire? Pour guérir le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Mais moi, je vous le disais il y a pas longtemps, Jésus n'a jamais ouvert une prison comme la prison de Montpellier. Jamais. Non, Jésus faisait sortir des prisons spirituelles toutes les âmes captivées par Satan. Il y a une confrontation de puissance entre le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres quand Jésus était sur la terre. Et il continue aujourd'hui avec l'Église. Mais l'Église, elle dort, elle ronfle, religieuse, discuteuse, rebelle à son Seigneur. J'ai pas honte de le dire. Ce démon la rendait infirme. Infirme. Son infirmité, c'est qu'elle était courbée. Elle regardait que la terre. Alors que Jésus nous demande de lever les yeux au ciel. Le démon l'avait courbée. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'elle soit courbée comme cela? Plusieurs commentateurs vont nous dire que le mal dont souffrait cette personne, cette courbure physique, résultait d'un problème de son système nerveux. Satan ou le démon avait pris, n'est-ce pas, son esprit. Il a tourné dans sa partie spirituelle, il l'avait captivé et il la tenait dans son infirmité courbée. Et cet esprit d'infirmité, n'est-ce pas, il était attribué à un mauvais esprit. Jésus le dit. On va le voir un peu plus bas. Comment pouvons-nous discerner ces choses, frères et sœurs, si l'Église est aveugle, si les doctrines de nos Églises s'arrêtent à nos dadas sur lesquels on se bat? Il y a parole de Dieu, mais il y a toute la parole de Dieu. Pas seulement que ce qui occupe ma doctrine. Non, toute la parole, et toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Théopneutos, elle a reçu le souffle de Dieu. Elle a reçu l'inspiration de Dieu. Pourquoi faire? Pourquoi nous ne soyons pas nus, aveugles et misérables, pratiquant la religion comme une sécurité sur laquelle nous nous appuyons? Je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant, tu es rien du tout. Tu es à Christ. Tu comprends cela? Tu n'es pas à une église. Tu es à Christ. Tu n'es pas à une église. Tu es au corps du Christ. C'est différent. Nos belles dénominations avec nos belles doctrines sur le fronton de nos églises. Et nous discutaillons avec cela. Jésus lui-même va confirmer cette opinion qu'elle était prise par un mauvais esprit et que, voilà, au verset 16, il nous est dit ceci. Et celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Voyez-vous, moi, j'aurais cru que quand vient dans l'église des inconvertis, qu'il y aurait possibilité que ces inconvertis soient, n'est-ce pas, percutés par la parole et que les esprits, s'ils ont pratiqué des choses occultes ou spirites, ou je ne sais pas, l'Écriture abonde dans le sens du péché, où le Dieu décrit que tel et tel péché sont des péchés d'abomination, c'est extrême horreur devant Dieu, etc. Les relations incestueuses, etc. Malheur à celui qui couche avec sa belle-mère. Enfin bref, il y a tout un listing dans l'Écriture. Vous croyez que Dieu a parlé en vain? Est-ce que tu crois que Dieu a parlé en vain, ma sœur? Pourquoi? Est-ce que le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le même Dieu de l'Ancien? Est-ce le même? Ben alors, c'est le même. C'est le même Dieu. Jésus lui-même confirme expressément cette opinion. Le mal paraît avoir eu son siège dans le système nerveux. De là, une contraction qui tenait cette pauvre femme courbée. Et cela faisait depuis plus de 18 ans. Il y en a dit qui disent, je porte ma croix sur la terre. Oui, il y en a qui le portent, n'est-ce pas? Que Satan tient lié. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée. Tu es délivrée. Apolluo en grec, le verbe qui est marqué là, selon nos traductions, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction, mais moi ce que je sais, c'est que le verbe qui est là, apolluo en grec, veut dire libérer, délier, détacher, veut dire aussi relâcher un captif. Ah, alléluia! Jésus exerçait son ministère, il venait libérer les captifs. Oh que j'aime le Saint-Esprit, oh que j'aime l'Esprit du Dieu vivant, qui est capable de délier et de délivrer les gens. Des passions qui sont dans le cœur de l'homme. Vous savez, la nature humaine, elle est pécheresse. Et tant que nous serons dans ce corps, nous aurons à lutter contre la nature pécheresse. Si l'homme intérieur, il se réjouit dans le Seigneur, la loi du péché qui est dans nos membres continue d'agir. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous garder nous-mêmes. Mais quand on est débridé dans sa vie, quand on passe d'un péché à l'autre et qu'on calme sa conscience en venant à l'église, quelle horreur, quel mélange, quelle confusion. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Ayons recours au sang de Jésus. Oui, pour que nous soyons purifiés de notre péché, il faut que nous confessions nos péchés. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, oui. Pas le péché globalement, parce que dans l'Écriture, dans 1 Jean 1, il est dit de confesser chaque péché. C'est si facile de dire, j'ai péché. Pourquoi? Tu crois que le Seigneur c'est un imbécile? Parce que le Seigneur il sait pas que tu as péché. Mais pourquoi veut-il que tu confesses? Parce qu'il a donné l'autorité à l'Église sur la terre. Parce que l'Église sur la terre, elle a eu ce pouvoir de la part de Dieu de lier et de délier les choses. Soufflant le Saint-Esprit, le soir de la résurrection sur les disciples, Jésus va leur dire, il va leur dire cette chose extraordinaire, il va leur dire, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Nous voyons que l'Église, elle a un pouvoir. Je te dis pas de passer au confessionnal, et de faire un chapelet, 3 prières à la Vierge Marie, 10 prières à notre Père, pour être pardonné. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. C'est pas le rituel religieux et qui va effacer ton péché. Seul le sang de Jésus peut effacer ton péché. Tu comprends? Seul le sang de Jésus peut effacer ton péché. Tu es délivré, tu es libéré, tu es délié, tu es détaché, tu es relâché de ta captivité. C'est quelqu'un qui perd ses liens et qui s'en va librement. Jésus nous libère. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre à l'égard du péché. Il nous est dit au verset 13 que Jésus lui imposa les mains. Il posa les mains. Mais c'est le même verbe que imposer les mains. Il étendit ses mains sur cette personne. Et apparemment, en étendant ses mains, cette personne a été délivrée. La puissance de Dieu a été libérée. Frères et sœurs, il y a un passage dans l'Écriture qui est très intéressant, que nous allons trouver dans l'Ancien Testament, dans le prophète Habacuc. Venez avec moi au Habacuc 3. Vous allez voir ce qu'il est dit dans Habacuc 3. Le prophète Habacuc. Ben, j'ai la référence. Habacuc, chapitre 3, versets 3 à 4. Voilà ce qu'il est dit. Habacuc 3, versets 3 et 4. Dieu vient de Téman et le sein de la montagne de Paran. Sa magnificence couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Et sa splendeur était comme la lumière. Regardez ce qu'il est dit là. Des rayons lui jaillissaient de sa main. Et là se cachait sa force. Alléluia. Comme la femme à la perte de sang, une puissance est sortie du Seigneur. Dans l'imposition des mains, selon l'onction qui repose sur votre vie, vous pouvez imposer les mains à une personne et voir la puissance de Dieu être manifestée dans cette personne et l'avoir libérée. Mais attention, n'imposez pas les mains trop activement. Faites attention. Comme dit Paul à Timothée, ne participe pas au péché d'autrui. N'impose pas les mains à tout, à tort et à travers. N'impose pas les mains sur ton chat, n'impose pas les mains sur ta copine, n'impose pas les mains sur ta maîtresse, n'impose pas les mains. À moins que tu saches que ta compagne, elle suit le Seigneur et qu'elle est dans la foi. Tu peux. Des rayons de lumière jaillissaient de sa main. Littéralement, des cornes de puissance, dans le texte original en hébreu. Des cornes de la puissance de Dieu. La corne, c'est le symbole de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu jaillissait de sa main. Alléluia. 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 Dieu est tout puissant. Et l'Église doit être puissante comme son Dieu. C'est-à-dire que l'Église, elle doit reproduire ce que Dieu lui a laissé comme commandement. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si du moins tu marches dans les règles spirituelles que Dieu a instituées. Si du moins les clés de la foi, les clés de la sainteté, et les clés de l'approbation du sang de Jésus, les clés des dons du discernement des esprits, le glaive de l'épée qui est la parole de Dieu, toutes ces clés réunies dans l'individu qui croit, n'est-ce pas, tu vas pas faire les choses n'importe comment. Tu sais que si tu vas sur un ring, mais si tu sais pas boxer, tu vas en prendre plein la figure. Il y a des règles. Il y a 3 minutes ou 2 minutes pour un round. Il faut que tu t'arrêtes, que tu te reposes. Tu peux pas combattre les puissances spirituelles si tu n'es pas dans les règles spirituelles que Dieu lui-même a fixées pour nous. Je vous renvoie à ces 14 enseignements qui ont été donnés, ou ces 15, pardon, enseignements qui ont été donnés depuis maintenant pas mal de semaines concernant le combat spirituel. Souvenez-vous de tout ce que nous avons vu et les règles spirituelles et les 7 clés qui permettent à ceux et celles qui exercent la délivrance de pouvoir avoir des résultats performants avec le Seigneur dans ce domaine-là. À cet instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais voilà. Elle glorifie Dieu, mais ça dérange le chef de la synagogue, ça dérange le pasteur. C'est le jour du sabbat, ça dérange le pasteur. Non, tu peux pas. Non, le sabbat, il faut que tu... Ah, comme ça, hein, dans la présence de Dieu, faut rien dire, faut rien faire. Non, c'est bon, allez, comme ça. Dieu exerce la miséricorde quand il a envie. Il fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Il a compassion de qui il a compassion? Le cœur de Jésus n'est pas limité à un jour. Jésus est le maître du sabbat. Ça va les déranger. Ouh, que ça va les déranger. Et parce qu'aujourd'hui encore, avec ce sabbat, on nous fait une mayonnaise. On dit que le sabbat, c'est pour l'Église. Mais attendez, je rêve. Mais alors, il y a une méconnaissance de la parole. Même, il y a certains qui ont monté des doctrines avec cela, n'est-ce pas? Ils ont, en disant le sabbat, ils ont emmené des assemblées à vénérer, à adorer le sabbat. Mes frères et sœurs, moi je comprends pas. Même dans la Genèse, au chapitre 1, au moment où Dieu, il est dit qu'il sanctifia le jour, il nous est dit, voilà, c'est là, Dieu, il a sanctifié le 7e jour, c'est le sabbat. Mais c'est pas vrai du tout, parce que celui qui a la connaissance de l'hébreu, il n'est pas écrit Shabbat, là, il écrit Shabbat, il s'est reposé simplement. Il s'est assis sur la chaise, il avait travaillé pendant 6 jours, pour la création. Et après, frères et sœurs, moi je trouve nullement dans l'écriture, pendant 50 chapitres de la Genèse, je ne trouve jamais le mot Shabbat, je ne vois aucun patriarche faire le sabbat. Je vois 16 chapitres de l'Exode où il n'y a pas le mot Shabbat. Mais au 16e chapitre, je vois que Dieu institue le Shabbat comme une relation entre Israël et lui. Israël et lui. Israël et lui. Pas Israël et les nations. Et quand le Christ est venu, il a mis un coup de balai là-dedans. Il a vu que ce que les hommes avaient fait du Shabbat, il en a mis un coup de balai dans la fourmilière. Il a dit que le Christ, il est le Seigneur du Shabbat. Il est l'Adonai du Shabbat. Un jour, moi, j'ai entendu, il est le Baal du Shabbat. Ils sont fous, les gens, mais ils déraisonnent complètement. Jésus, il est l'Adonai du Shabbat. Il est le Seigneur du Shabbat. Et Jésus va leur dire, vous êtes de bons hypocrites, hein, hein, vous êtes là à faire votre Shabbat, hein, et dès que vous sortez, hein, s'il y a votre âne, n'est-ce pas, qui s'est sauvé, vous allez courir pour le chercher. Il fallait pas se déplacer de plus d'un stade, hein, pendant le Shabbat. Il fallait pas faire le manger pendant le Shabbat. Mais si qu'il y a quelqu'un qui a faim et qui vient dans ta maison pour solliciter de ta compassion, tu veux pas lui ouvrir ton cœur et lui faire à manger? Non, il faut pas toucher la poêle, il faut pas toucher le feu, il faut pas me toucher ça. Non, mais attendez. Dieu l'a donné pour Israël. Quand nous voyons le concile, le premier concile dans les actes des apôtres, les apôtres ont dit, nous n'allons pas imposer, n'est-ce pas, aux nations autre chose que de fuir la fornication. Les relations sexuelles illicites, n'est-ce pas? De manger, de s'abstenir de la viande, du sang, des viandes sacrifiées aux idoles. Mais je vois nullement dedans l'observance du Shabbat. Parce que Paul aussi, lui, va dire, désormais que personne ne vous condamne pour les questions de Nouvelle Lune, Colossiens chapitre 2, la question de Nouvelle Lune ou de Shabbat, etc., etc. Que personne ne vous condamne pour ces choses, qui n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Frères et sœurs, j'ai fait une recherche et j'ai regardé. Vous savez combien il y a eu depuis la Genèse jusqu'à la première fois où le Shabbat est institué? 2561 années où il n'y a pas une fois le mot Shabbat dans l'Écriture. 2561 années. Et on a mis des carcans sur les gens. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. Est-ce que le jour du sabbat est plus grand que l'exercice de la compassion et de la miséricorde, frères et sœurs? Non. Non. Pas du tout. Exercez la compassion, exercez la miséricorde. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Mais bien sûr. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, je vous l'ai dit, elle était dans la synagogue, elle entendait les enseignements de Jésus, elle avait la foi quelque part pour être dans ce lieu. Parce que tu viens pas dans une église si tu n'as pas la foi. Les gens du monde ne viendront pas dans l'église s'ils cherchent pas Dieu. Mais elle, il est dit qu'elle était de la race d'Abraham, une fille d'Abraham. Ça veut dire, elle était née du père Abraham dans la foi. Donc, elle était dans la synagogue. Donc, elle était dans l'église, assise. Et elle entendait Jésus enseigner. Et les paroles du Seigneur, quand elles sortaient de sa bouche, elles allaient impacter le cœur de cette femme. Comme elles devraient impacter nos cœurs ce matin. Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Que cette personne soit relâchée. Qu'elle soit libérée, déliée des liens, relâchée, rendre libre. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses qu'il faisait. Les guérisons du Seigneur, les délivrances du Seigneur, les résurrections du Seigneur, les guérisons, les purifications de lépreux étaient une démonstration, ni plus ni moins, du royaume de Dieu. Jésus veut que nous soyons délivrés des prisons de nos vies, derrière lesquelles nous nous retranchons. Jésus veut briser les barreaux des reins, les portes de fer, les serrures de fer. Il veut briser ces choses qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'être de vrais adorateurs. Alors, on pourrait paraphraser cet exemple, hein. C'était un jour de sabbat, c'était le dimanche au culte. Voilà, il y avait une femme de la race d'Abraham qui était là assise le dimanche au culte. Puis elle a entendu la prédication, et tout d'un coup, elle était courbée, bien sûr, et tout d'un coup, la parole, paf! Le serviteur approche, il prie au nom du Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu l'amène à prier, et la personne est délivrée. Ça, c'est le premier exemple. Il y a un exemple encore que nous allons voir. Le deuxième exemple, c'est la femme cananéenne. Dans Matthieu 15, versets 21-27, le cas de la femme cananéenne, c'est deux exemples que nous devrions bien comprendre. Bien assimilée dans nos cœurs. La femme cananéenne. En fait, on l'appelle femme cananéenne, mais elle est appelée dans l'écriture la syro-phénicienne. Ça veut dire qu'elle n'était pas juive. Elle était dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est-à-dire, elle était hors d'Israël. Elle était aux confins d'Israël, dans le nord d'Israël. Et pour la première fois, nous voyons Jésus sortir des limites d'Israël. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Béni soit le Seigneur d'être sorti d'Israël, parce que le salut maintenant pouvait rentrer dans les nations. Aïe, aïe, aïe. Quelle clé importante, frères et sœurs. Jésus vient et sort des limites d'Israël. N'avait-il pas dit, je suis venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël? Mais voilà que Jésus va faire une exception. Alors nous allons lire ce texte. Matthieu 15, versets 21 à 27. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On a beaucoup de choses à voir sur ce texte, n'est-ce pas? Si nous nous penchons simplement à lire le texte et que nous ne nous arrêtons pas sur les faits de ce texte, nous risquons de passer à travers beaucoup de choses. On devrait comparer le verset 21 où Jésus était parti de là, se retirant dans le territoire de Tyr et Sidon. Marc va nous dire, dans Marc 7, 24, 30, il va dire ceci. Jésus se retirait dans la solitude, sans doute à cause de l'inimitié croissante que venaient de manifester ses adversaires. Jésus étant parti de là, s'en allait dans le territoire de Tyr et Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Tu parles. La lumière était là au milieu des ténèbres. Ils ont vu la lumière. Ils ont su que la lumière était là. Mais Jésus était sorti. Il ne voulait pas qu'on sache. Il voulait se retirer. Pourquoi faire? Il avait une mission à accomplir avec cette femme cananéenne. Une mission qui nous touche directement parce que c'est l'implication du salut apporté à toutes les nations. Jésus n'aurait jamais dû même parler avec cette femme. Israël était le peuple élu. C'était impossible d'aller vers les nations, vers les gentils, vers les goïms, les impurs, les gens des nations. Et pour cause, il est considéré comme impur parce que eux, ils avaient reçu la loi, ils avaient reçu les commandements de Dieu, ils avaient fait alliance avec Dieu, ils avaient le service dans le temple, ils avaient la sacrificature, ils avaient les oracles de Dieu, la manifestation de Dieu, ils avaient vu Dieu se manifester, la montagne brûlante, le feu, ils avaient mangé et bu devant Dieu. Israël était privilégié. Oh, connaissance insondable de Dieu, mystère de Dieu quant à l'élection d'Israël. Jésus étant parti de là, s'en alla donc dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Donc le texte a des informations supplémentaires en marque que Matthieu ne nous donne pas. Donc il s'avance au nord de la Galilée. Jésus s'avance au nord de la Galilée jusque sur les confins de la Phénicie, ordinairement désignée par le nom de ces deux plus grandes villes, Tyr et Sidon. On ne peut pas traduire du côté de Tyr et Sidon, comme on l'a proposé, pour tenir compte du fait qu'il est dit ensuite une cananéenne sortant de ces contrées-là. Donc, elle venait bien de là. Voici la première incursion de Christ hors des limites d'Israël. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi? Il dit plus haut, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, pourquoi est-il sorti des limites d'Israël? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Dans ce passage, Jésus marque un fait important. Souvenez-vous ce que Jean va nous dire dans son évangile. Jésus a dit, le salut ne vient que des Juifs. Attention, ne vous méprisez pas sur cette phrase. C'est pas les Juifs qui vous donnent le salut, c'est le Seigneur. Attention, parce que beaucoup disent, faut aller vers les Juifs parce que tu vas avoir le salut avec eux. C'est faux. Archi faux. C'est Jésus, l'auteur du salut. Il n'y a pas d'autre salut en un autre nom que celui de Jésus. Yeshua HaMashiach, Jésus le Sauveur. On est bien d'accord avec ça. Pourtant, dans ce passage, Jésus marque un fait important. Si le salut vient des Juifs, pour autant, Dieu se réserve le droit divin d'ouvrir le salut à tous les hommes. Et c'est pour ça que Jésus est sorti en dehors des limites d'Israël. Vous souvenez-vous ce qu'il avait été dit? Ah, il y avait des choses. Et qu'est-ce qu'avait dit Moïse? Si vous n'écoutez pas l'Éternel, et voilà c'est ce que l'Éternel Dieu va vous dire, l'Éternel l'a dit, je me tournerai vers d'autres nations. Combien de siècles avant que Dieu, dans sa patience, se tourne vers d'autres nations alors qu'Israël a tout le temps transgressé les alliances avec Dieu? tout le temps transgressé. Dieu se réserve le droit d'ouvrir le salut à tous les hommes. L'autel des holocaustes est un symbole de ce salut. Vous savez pourquoi ? Car beaucoup ne le savent pas. C'est que l'autel des holocaustes, sur lequel on sacrifiait les animaux, sur lequel on prenait le sang, sur lequel on aspergeait les quatre cornes de l'autel des holocaustes, qui était un carré parfait, qui symbolisait la corne, la puissance, et le sang sur les cornes, c'est la puissance du sang dans la rédemption de ce sang-là. C'est-à-dire que le sang sur les quatre cornes de l'autel, c'était en quatre directions différentes, nord, est, sud, ouest, et alors la rédemption, elle était pour tous les hommes et en tout lieu. Et en tout lieu. Et l'autel des holocaustes symbolisait déjà, n'est-ce pas, le salut à tous les hommes. Pas seulement à Israël, mais à tous les hommes. Car sans effusion de sang, il n'y a point de... Très bien. Point de pardon. Donc l'autel des holocaustes était déjà un symbole, n'est-ce pas, du salut pour tous les hommes. Et la croix est un symbole du salut pour tous les hommes. Moïse l'avait déjà dit au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte, que Dieu se tournerait vers les nations si Israël n'écoutait pas sa parole. Le Messie d'Israël veut que cette femme cananéenne reconnaisse le droit de priorité du peuple élu. Quand il lui dit, il n'est pas bon de donner des miettes aux petits chiens là. Hein? Jésus voulait lui faire comprendre que la priorité, c'était pour les Juifs d'abord. Car quand Jésus est venu, n'est-ce pas, sur la terre, quand il a commencé son ministère, il y avait une terrible confusion dans le peuple d'Israël. Le peuple est devenu religieux. Le peuple s'était tourné vers tant de doctrines fausses. Jésus, quand il est venu, il a trouvé une confusion. Il fallait qu'il redresse toutes ces choses. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Écriture qu'il enseignait, il ne cessait d'enseigner le royaume de Dieu. Il était en train de redresser, n'est-ce pas, toutes les doctrines tordues que les pharisiens avaient émises. Il ne faut pas se dépasser plus d'un stade, il ne faut pas faire ça, il faut se laver les mains, il faut se laver les pieds. C'est l'islam, c'est la loi. Le Messie d'Israël veut que cette femme cananéenne reconnaisse le droit de priorité du peuple élu. Matthieu est ravi de montrer à quel point Jésus respecte l'objectif de sa mission, d'abord pour Israël. Et c'est pour ça que Matthieu le souligne. Il est ravi que Jésus dise à cette femme cananéenne, « Je suis venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël ». C'était sa mission première. Il est venu d'abord pour la maison d'Israël. Et ensuite, Dieu s'est tourné vers les nations. Quelle grâce nous avons. Comment voulez-vous que Dieu, se tournant vers les nations, nous dise, maintenant faites comme mon peuple Israël. C'est impossible. C'est impossible. Ailleurs, il y a beaucoup qui disent, avec des doctrines, n'est-ce pas, des doctrines, on dit, voilà, vous avez été greffé sur la racine, donc si vous avez été greffé sur la racine, eh ben vous devez vous nourrir de la sève, et vous devez être comme Israël, faire les fêtes de l'Éternel, faire tout. Mais c'est faux! Une greffe, si c'est un oranger qui est greffé sur un citronnier, je te garantis, l'orange ne sera jamais un citron! Malgré qu'elle se nourrisse de la même sève, elle restera orange et l'autre sera citron! Et on nous dit, soyez comme eux. Mais je veux pas être comme eux. Je veux être comme le Saint-Esprit me dit d'être. La femme, elle veut dire, aie pitié de moi. Voilà. En fait, c'était sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Mais la femme va dire à Jésus, aie pitié de moi. Alors qu'elle a dit que c'était sa fille qui était cruellement tourmentée. Elle s'identifie, n'est-ce pas, au tourment de sa fille. Aie pitié de moi. Elle a pris le rôle, n'est-ce pas, de la femme qui protège par sa foi, n'est-ce pas, son enfant. Regardez bien, je vous dis par sa foi. C'est pas évident parce qu'elle est cananéenne, mais il y a plein de mots qui sont instructifs dans ce que cette femme va dire. Elle va dire, aie pitié de moi. Elle avait un bienfait à demander pour sa fille, ou peut-être en réalité pour elle-même, car la misère de sa fille était devenue la sienne. Elle va dire, Seigneur, fils de David. Ah, ouh. Une cananéenne qui dit ça. Seigneur, elle reconnaît Jésus Seigneur, fils de David. Oh ah, Jésus est bouleversé quand il entend ça. Fils de David. Il est remarquable que les deux plus brillants exemples de foi que nous avons rencontrés dans le ministère de Jésus, c'est et cette femme et le centenier. Pas Israël. Aucun des membres d'Israël n'a témoigné de la foi de ces deux personnages, de cette cananéenne qui va se dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle va reconnaître Jésus comme son Seigneur et comme fils de David. Alors, comment pouvait-elle savoir que Jésus était le Seigneur et fils de David? mais parce qu'elle avait connaissance des expériences messianiques des Juifs qui vivaient là, à Tyr et à Sidon. Elle savait que un Messie devait venir. Et quand Jésus se présente, n'est-ce pas, avec la réputation qui le précédait, alors elle va dire, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » C'est une belle déclaration de foi, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens reconnaissent Jésus comme leur sauveur, mais le Seigneur, niette, niette. Parce que si vous dites que je suis Seigneur, faites tout ce que je vous dis de faire. Et nous n'avons pas envie de faire ce que Jésus nous dit. Nous voulons bien un petit sauveur à bon marché qui nous rassure, mais un Seigneur qui domine sur nos vies, non, nous n'en voulons pas. Car nous voyons bien que dans nos vies, n'est-ce pas, la Seigneurie de Christ n'est pas totalement installée sur nos vies. Le fait que cette dernière s'adresse à Jésus comme fils de David montre qu'elle connaissait les prophéties concernant le Christ et qu'il devait être le fils de David. Elle connaissait les choses. On aurait pu dire, mais elle n'était pas dans la synagogue, celle-là non plus. Hein. Le chef de la synagogue, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'a pas amené dans notre synagogue pour... Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Comment sait-elle cette chose? Probablement, elle avait entendu parler du ministère du Seigneur et de la puissance manifestée à l'égard des esprits méchants. Et ça va être pour Jésus un moyen de montrer la puissance du royaume de Dieu. Mais là, c'est assez particulier. La fille n'est pas là. Elle n'est pas avec la maman. La femme vient faire une demande au Seigneur, simplement. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais sa fille n'est pas là. Elle doit être chez elle, dans sa maison, tourmentée par le démon, comme le fond lunatique jeté dans le feu et dans l'eau. Les démons engendrent du tourment dans nos vies. Tourmentée, mais pas n'importe comment, cruellement. Cruellement tourmentée par un démon. Dans le Nouveau Testament, ce sont les personnes affligées de maladies spéciales et sévères, du corps ou de l'esprit, paralysie, cécité, surdité, perte de parole, épilepsie, mélancolie, démence, etc. Et dont les Juifs pensaient que les démons étaient dans leur corps pour les affliger de la maladie, mais aussi pour enlever leur raison et agir à leur place. Les guérir exigeaient l'expulsion des démons. Aujourd'hui, le monde, sommet de la connaissance, comment vous pouvez croire que des démons puissent affliger les gens et les posséder? Mais non, on est dans le siècle de la lumière. Vous savez que le siècle de la lumière était le siècle des plus grandes ténèbres qu'il y ait eu. On a dit le siècle de la lumière, mais c'était des ténèbres partout. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière, et quand la lumière est là, elle éclaire les ténèbres. Quand la lumière est là, elle éclaire nos ténèbres. Mais il faut que la lumière nous donne la vie. Vous savez comment Adam est né, n'est-ce pas? Dieu l'a formé de la glaive de la terre, et il lui a insufflé dans ses narines le souffle de vie, nous est-il dit. Ça, c'était pour l'Adam terrestre, mais pour l'Adam céleste, pour le nouvel Adam, il n'est pas de la terre, il est d'en haut, il est spirituel, il n'est pas terrestre. Et regardez que Jésus va faire la même chose. Quand il va faire sa nouvelle création, un peuple nouveau, un peuple animé de son esprit, un peuple qui va être conduit par son esprit, mais Jésus va faire pareil. Il va faire venir les apôtres, il va souffler en eux l'Esprit Saint. Ils deviennent une nouvelle création, non plus une création terrestre, ils deviennent une création spirituelle. Si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le même principe, c'est le même principe. Très étonnant que cette cananéenne, cette syrophénicienne, n'est-ce pas, puisse dire de Jésus qu'il est le Seigneur et qu'il est le fils de David. Elle avait une connaissance des choses de Dieu. Cette femme avait entendu parler de Jésus, de ses œuvres. Peut-être même, vivant dans le voisinage des Juifs, avait-elle connaissance de leur espérance messianique. Le nom qu'elle donne à Jésus, fils de David, nous montre même qu'elle voyait réellement en lui le Messie promis. Sa touchante prière s'échappe de son cœur avec des cris de douleur et faisant de la souffrance de sa fille sa propre souffrance, c'est pour elle-même qu'elle implore la compassion du Seigneur. Les disciples vont dire, et comme tous les disciples, Jésus va leur dire, race d'incrédules, jusqu'à quand resterai-je avec vous, hein? Vous avez l'air de rien comprendre. Et bien sûr, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais les disciples vont dire, en s'écriant, en criant, renvoie-la. Elle vient derrière nous. En clair, ils vont dire au Seigneur, elle nous casse les pieds. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez compter sur la grâce et la miséricorde du Seigneur. Si les hommes te rejettent, Jésus ne te rejette pas. Quelle grâce que nous avons. Quelle grâce que nous avons. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Car elle crie derrière nous. Mais quelle est l'intensité de ce cri, frères et sœurs? Elle crie derrière nous. Eh bien, si vous regardez les Écritures et vous penchez dessus, vous apercevez que le cri qu'elle pousse, c'est le même cri que Jésus a poussé à la croix. Elle a comme un croissement, c'est sorti de ses entrailles. Elle a crié du fond de ses entrailles, comme Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » La femme a dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Le même cri que Jésus a poussé à la croix, cloué entre ciel et terre. Kratzo en grec, crier, comme un corbeau, comme un croissement, rentre, croque. Pas rock, hein, rock'n'roll, non. R-A-U-Q-U-E, un cri rock. Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit, Matthieu 27, 50, c'est le même cri. Ce cri d'une grande intensité. Elle vient et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. C'est le cri du cœur, un cri de douleur, un cri de désespoir. Et Jésus va lui dire, mais allez, allez, s'il te plaît, il ne convient pas que... Bon, allez, les miettes, tu vois. Et la femme va lui répondre quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire, même les chiens qui sont autour de la table, ils peuvent manger les miettes qui tombent par terre. Car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit, oui Seigneur, je veux ces miettes. Est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant le Seigneur, à crier de tout notre cœur en disant, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu libères ma vie. J'ai besoin que tu me délivres de tout ce qui empêche ma vie de s'épanouir. Elle dit, oui Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle persévère dans sa reconnaissance de la seigneurie du Christ, même s'il n'a pas encore agi. Même si Dieu n'a pas encore agi, Jésus reste ton Seigneur. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et Dieu, il fera les choses en son temps. Parce que Dieu connaît tous les paramètres dans lesquels il peut agir vis-à-vis de nous. Nous avons un Dieu de patience. Un Dieu de grande patience. Dieu patiente avec nous. Une remarque s'impose. Une remarque s'impose. Dans ce cas précis, nous avons affaire à la souveraineté de Dieu. Pourquoi? On peut ainsi dire dans notre langage vulgaire qu'il s'agit d'une délivrance par procuration. Dieu n'a pas besoin de 10 personnes qui imposent des mains à une personne pour qu'elle soit délivrée, mais Dieu peut lui-même délivrer la personne là où elle se trouve. Ça empêche l'homme de se glorifier. Les chasseurs de démons, tu sais, j'ai chassé tant de démons dans ma vie. Menteur, c'est Dieu qui les chasse, c'est pas toi. Et dans ce cas-là, c'est Dieu lui-même qui agit. Tu peux peut-être prier pour une personne qui se trouve en Afrique, aux Amériques, et que Dieu puisse agir, sans que tu sois présent pour voir l'action de Dieu. Amen. Moi, j'aime ça. J'aime voir la souveraineté de Dieu qui agit au-dessus de tout concept humain. Ce que nous avons pensé dans nos petites têtes, hein, n'est-ce pas? Comme si nous pouvions penser comme Dieu. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, notre intelligence est limitée par le péché et nous croyons que nous pouvons dire à Dieu ce qu'il a à faire. Non, Dieu est le Dieu tout puissant, il est El Shaddai, le Dieu de toutes les puissances. Dieu est tout puissant pour te libérer de quoi? De tes dépressions, il est tout puissant de te délivrer de tes tourments, de tes insomnies pendant la nuit, où tu dors pas, où il y a des choses qui t'agressent pendant la nuit, tu trouves pas le sommeil, il y a quelque chose, Dieu veut te libérer. Et je te le dis ce matin, ce n'est pas en allant à l'église ou au Shabbat que Dieu va te délivrer, c'est en croyant au Fils du Dieu vivant. Christ est libérateur. Christ est venu pour libérer. Il est venu pour nous libérer. Libérer de ce que nous sommes, de notre façon de penser, dans notre manière de vivre. Il est venu pour nous libérer, pour mettre en nous les valeurs du royaume de Dieu. Dieu agit directement et à distance. Nous devons absolument connaître la volonté de Dieu. Attends, je vais envoyer un fax. et je vais mettre une prière dessus, il va être délivré là-bas où il se trouve. Ou je vais envoyer un email ou un courriel. Dieu a besoin d'une puissante prière. Dieu a besoin de trouver des hommes et des femmes qui s'identifient à la souffrance de la personne qui souffre. Donc ça, c'est les deux cas que je voulais aborder avec vous ce matin. Nous aurons, dans les jours prochains, mardi, on recommencera. On reprendra, mais on ira sur un autre sujet, puis on reviendra sur ce sujet. Mais j'ai à cœur d'aller voir un autre sujet mardi prochain. Les conséquences du péché sur nos vies et les liens que le péché peut mettre sur nos vies. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.